Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h03, on y revient, on mastique dans le super Moscato Show avec Marion Bartoli, Steve Foulébré, oui. Adrien Aiguin, mon petit Pierrot. Dans une demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, on va s'intéresser à l'état de santé d'Arthur Fils, qui était en pleine bourre et qui a dû déclarer forfait. Ah ouais. À Rome, donc ça nous inquiète un peu parce que bon, la saison dernière, ça lui a occasionné des mois d'absence, hein, et ça arrive au pire moment à quelques jours de Roland Garros.
Ah bah, les jeunes de se blesser comme ça, là, c'est blessure au dos, c'est des blessures.
Là, on ne sait pas si c'est le dos, la hanche, mais Marion a enquêté, donc vous aurez des infos toutes fraîches.
Oui, je vais tout vous donner.
Merci Marion.
Non, c'est la femme à Colombo, c'est pas quand même Colombo.
Colombo.
C'est la femme. Quoi.
Donc ça, c'est à 16h30. Et puis donc, pour démarrer, les Parisiens peuvent-ils avoir des récompenses en Ligue 1? Vincent Moscato règle le problème tout de suite sur RMC. Et à 17h, Habib Bey est-il victime d'un acharnement? Voilà, c'est ce qu'il il estime, que les commentaires, les critiques de la presse sont adressés à lui directement et surtout à titre individuel. Et non pas pour
quand
son
c'est
équipe.
Ça, quand tu vis une saison comme ça, tu deviens parano après. T'as l'impression que tout le monde t'en veut. Donc,
ça fait que deux mois. Heureusement qu'il n'a pas fait toute la saison.
Ouais, c'est peut-être des fois, c'était peut-être un truc d'optique. Tu vois, il voit, c'est pas très bon. Quoi. Non, mais qu'il se fasse déchirer. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal. On va en parler.
C'est une question de point de vue, du truc d'optique. Tu veux dire.
Non, mais c'est ça. J'ai cherché le point de vue d'optique. Mais c'était pas loin. Non, mais je savais qu'il y avait un truc qui marchait pas.
Tu parlais d'illusion d'optique.
Une illusion. Mais non, c'est le point de vue. Moi, j'ai dit optique. C'est quand même, c'est pas loin.
C'est pas tout à fait loin,
mais c'est pas tout à fait ça.
C'est même pas reprenable.
Bravo, Pierrot, tu l'as vu. T'as eu le coup d'œil de suite, j'ai envie de te dire.
Il connaît son 20-20, Pierrot.
Ah oui.
On décrypte bien son 20-20 quand même. 20 ans, ça serait triste, non?
Ça fait 20 piges.
Alors, le journal moyen, deuxième édition. 16h45 avec Adrien.
Il y aura des saucisses, il y aura des mâchoires paralysées. J'ai du Christophe Cessieux qui est là, qui revient dans le journal moyen. Il se bat léger, Christophe, léger. Il était sur un fil, il n'est pas tombé, mais il pensait à nous quand il parlait, c'est sûr. Christophe Cessieux, j'ai un Moscard de Thomas Vauclair pendant une course cycliste hier. Et
intéressant aussi.
J'ai Victor Wembanyama qui nous parle de foot, parce qu'il est comme ça, Wembanyama. Il parle de basket, il parle de foot.
Avec Steve Nash.
Interviewé par Steve Nash, légende de. Ancien joueur NBA, et on parle Ligue des Champions avec Wembanyama. Question, je vous expliquerai tout, totalement dirigé de Steve Nash. Il a un intérêt dans la réponse. Rendez-vous 16h45.
Et j'ai été surpris, on n'en a pas parlé tout à l'heure avec Freddy Fautou. D'ailleurs, très bonne interview que vous pouvez podcaster sur rmcsport.fr.
Dis-moi tout, Pierrot.
Une image, je ne sais pas si tu l'as vu, Victor, quand il met le coup de coude. Ensuite, il y a une décision arbitrale qui est annoncée dans le stade. Il dit flagrante foule et il se retourne vers
un. 2.
Flagrante 2, il se retourne vers un mec des Spurs et il lui demande ça veut dire quoi.
Oui, parce qu'il n'a jamais eu de faute flagrante. Victor,
ça ne connaît pas.
Bah, en fait, en NBA, tu as une flagrante 1 qui te permet de rester sur le terrain, mais qui est une faute antisportive de niveau 1.
Ah, d'accord, c'est le degré.
Et ça, c'est la flagrante 2, c'est l'expulsion. Mais Victor, il ne connaît pas, donc il demande à Harrison Barnes.
Il
dit
what
does it
mean.
Harrison Barnes, tu dis l'oreille, grand, Tahiti douche. Tu peux aller prendre ta douche.
Eric, il met quoi? Il y avait que des flagrantes 2.
Oui, exactement.
J'étais étonné qu'il ait besoin de demander. Et je pensais qu'il maîtrisait tout.
Merci les gars, Basket Time, vous nous apprenez le basket.
Alors demain,
merci.
Basket Time, aux alentours de, en général, 13h, c'est en ligne.
C'est quoi?
Voilà, on est rarement déçus, surtout en ce moment, c'est les playoffs. Donc demain, c'est ça, un spécial playoff.
Spécial playoff.
Simplement, peut-être.
On s'interrogera sur quelle grande star NBA a sous-performé en playoff dans sa carrière.
C'est pas mal.
Voilà.
Je vais suivre ça.
Ça, tu vas l'écouter, non?
Ah oui, je vais l'écouter, ça avec une oreille. Peut-être pas des deux oreilles, mais d'une oreille.
En faisant ton sport.
Avec un écouteur.
En faisant ton gainage le matin, ça passe.
Voilà.
Allez, tout de suite, la Ligue 1 va fêter ses meilleurs éléments.
Le championnat de France de foot touche à sa fin.
Il faut monter d'un cran, monter le cursus, monter le petit cursus pour être le meilleur possible.
Mais pour le maintien et même le titre.
Maintenant, c'est à nous de faire le travail sur le boulot.
Rien n'est joué.
Rendre à César les travails de
toute la Ligue 1 et sur RMC.
Ouais, en fait, c'est un alignement parfait de planètes. Et bien, l'OL gagne de nouveau dans un alignement de planètes.
Et dimanche prochain.
Et s'intensifie ce week-end.
Tous les matchs de la dernière journée.
Comme l'eau sur le feu, là.
Il faudra toujours le surveiller comme le lait sur la soupe.
De mettre de l'eau sur le feu.
RMC.
Envoyer l'artillerie lourde.
Numéro 1.
Numéro 1 sur le sport.
Le gars, il est payé 300 000 balles par mois. Il n'est pas capable de tirer un pénalty contre un gardien de Ligue 2.
Moscato. Il va te le régler le problème.
Il y a des pépites là quand même. Hein. Alors donc ce soir, le football français décerne ses récompenses, meilleurs joueurs, meilleures joueuses, meilleurs entraîneurs, meilleurs espoirs. En Ligue 1, les Parisiens pourraient tout rafler. Mais Luis Enrique est-il vraiment un meilleur entraîneur que Pantaloni ou que Pierre Sage au vu des moyens à sa disposition? Au vu des moyens à sa disposition, oui.
Au vu des moyens à sa disposition.
Mais quand j'ai dit Pantaloni, il m'a regardé, il a dit oh, t'es sérieux?
J'ai eu deux réflexions. Alors Pantaloni, alors je me suis dit bon, c'est pas au niveau de Luis Enrique. Après j'ai petit pantalon.
Pierre Sage, super présent de Pierre Sage. Et puis au niveau des joueurs, les joueurs parisiens intermittents, est-ce qu'ils peuvent vraiment prétendre à des trophées individuels? Est-ce qu'on est le meilleur joueur de la saison quand on est absent la moitié du temps? C'est la question qu'on va se poser au 32-16. Alors je vous donne quelques-uns des nommés pour les récompenses. Meilleur joueur, c'est simple, hein, sur 5 nommés, il y a 3 Parisiens. Donc Dembélé, Nuno Mendes, Vitinha, le Lensois, Thauvin et le Marseillais, Greenwood. Chez les espoirs, 5 nominés, 3 Parisiens. Doué, Neves, Zaïre Emery, Boadi, Barco. Et puis parmi les entraîneurs, alors le casting est assez évident, Luis Enrique, Sage, Fonseca, Genesio et Pantaloni. Alors le problème, Arthur Perrault,
bonjour messieurs,
c'est que la Ligue 1 n'a pas été la priorité de ces joueurs-là toute la saison.
Oui, notamment pour reprendre les catégories que tu viens de citer, Pierrot. Par exemple, Ousmane Dembélé, Vincent, il a disputé 20 matchs de championnat sur les 32 déjà depuis le début de la saison. Idem pour l'autre Parisien, Nuno Mendes. À titre de comparaison, pour Mason Greenwood, le Marseillais, cela monte à 31 matchs. Donc il y a vraiment un énorme écart entre ces trois hommes. Pour le meilleur espoir, là aussi, les joueurs du PSG sont les moins bons élèves. Désiré Doué comptabilise 22 matchs de Ligue 1. Évidemment, cela est accentué par la gestion d'effectifs du champion de France en titre et de son entraîneur Luis Enrique. Cela se ressent au poste des gardiens de but dont on n'a pas parlé, où c'est très ouvert, parce que la concurrence au PSG entre Matvei Safonov et Lucas Chevalier a fait 2 victimes et les 5 nommés sont assez proches les uns des autres. Dominique Greff, Brice Samba, Mike Penders, Hervé Coffey ou encore Robin Risser, le lanceur.
John Coffey.
Alors pour les...
imagine le nommé, il faisait 2 mètres et 150 kilos, John Coffey.
Alors pour les gardiens, il va y avoir un débat simple, hein. C'est-à-dire que chacun va voter pour celui qu'il estime le plus fort des 5. Mais alors, oui. Vincent, est-ce que Dembélé, qui a démarré 9 matchs en Ligue 1, peut être considéré comme meilleur buteur, par exemple? C'est une vraie question.
Mais Dembélé, qui traîne la Ligue 1 médiatiquement, qui fait rejaillir la Ligue 1 par son talent, parce qu'il joue au PSG, parce qu'il est en Champions League, et il ne va pas être pénalisé parce qu'il a fait les championnats du monde des clubs l'an dernier, qu'il s'est blessé. Faut en prendre compte aussi, c'est la blessure fait partie entièrement de la vie professionnelle des joueurs. Donc un mec qui traîne, peut-être qu'il a moins joué que les autres, mais quand même on ne va pas le pénaliser parce que justement il fait tous ses matchs pour le PSG, parce qu'ils gagnent toutes les compétitions. Tu vois ce que je veux dire? C'est, alors après, tu peux dire, ouais, mais il a moins joué de 10 matchs, Greenwood. Mais Greenwood, les matchs qu'il a fait, il y en a certains, je peux les faire. Hein. Donc, je veux te dire, c'est pas le nombre qui compte. Hein. Ça sert à rien. Maintenant, est-ce que tu as pénalisé des mecs qui ont fait peut-être aussi un peu plus attention à leurs blessures parce que la saison allait être plus longue parce qu'il y a la Champions League, avec un entraîneur qui les ménage parce qu'il y a un peu plus d'effectifs? Ben non, moi je les pénalise pas, ça fait partie du truc. Mais les mecs, s'ils veulent la même chose, les agents, ils les présentent au PSG, ils les prennent, tu vois, dans les autres clubs, les autres joueurs, ils les prennent, et puis s'ils ont le niveau, ils jouent au PSG, et ils auront peut-être quelques avantages. Enfin, l'avantage de jouer toute la saison et de faire les championnats du monde aussi l'an dernier, de pas avoir de préparation. Donc, non, moi je dis, faut récompenser ces mecs parce qu'ils le méritent, parce que ce sont les meilleurs, et on va pas faire balancer le goal de la Monte-Beuvron parce que socialement c'est gentil de le faire parce qu'il faut un petit club, ou alors c'est la fête au village, quoi, tu vois. Non, une récompense, c'est les meilleurs.
La récompense sportive, c'est les meilleurs. Qui est le meilleur joueur de la saison alors? Dembélé, Nuno Mendes, Vitinha, Thauvin ou Greenwood?
Alors ça se discute. Alors Thauvin est intéressant quand même. Thauvin, tu vois, je vais te dire un truc, là, je peux en prendre compte de Thauvin parce que il est dans un bon club, il est dans un des meilleurs clubs français actuellement sur la saison. Il a refilé un coup de fouet, c'est intéressant de le voir. Mais je pense qu'il passe derrière les joueurs du PSG. Dembélé, d'après moi, ils passent derrière Dembélé. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont en finale de Champions League. Ils sont champions de France. Tu vas dire non, Dembélé, non, parce qu'il a fait 20 matchs. Mais vous foutez de qui? Mais pas du tout. C'est Dembélé, point.
Mais après,
et le Dauphin, Dauphin.
Normalement, la Champions League ne doit pas rentrer en compte sur le trophée.
Ah, bah ouais, non. Mais plus si, mais elle nous influence quand même.
Oui, forcément. Peut-être qu'elle
va influencer
maintenant pour Dembélé. Moi, je te rejoins pas. Parce qu'il avait
ou Barcola ou un autre, comme tu veux.
Il avait tellement du PSG. La saison dernière, voilà. Dembélé, il fait 21 buts, 8 passes, et qu'il y avait sans conteste, il était meilleur joueur de Ligue 1. Je trouve qu'aujourd'hui, au-delà du peu de matchs qu'il a joué, mais Vincent a rappelé les circonstances, ses 10 buts, 6 passes, c'est quand même beaucoup moins que la saison dernière. Bon, il y a un joueur qui est à l'unanimité pour moi, à mon sens, hein, c'est Vitinha. Vitinha, il a fait la Coupe du Monde des clubs, il a tout joué, Vincent.
Il a joué 27 matchs
de Ligue 1, il est 3e meilleur passeur, c'est le meilleur milieu de terrain en France et peut-être en Europe.
C'est un
ratier
terrible.
Tovin, j'adore, mais pour moi, Vitinha. Le meilleur joueur de Ligue 1. Et Mendes et Dembélé, pourquoi pour moi, sont pénalisés par le nombre de matchs qu'ils ont joué, et surtout parce qu'a fait Dembélé la saison dernière. Je trouve que c'est moins bien cette année, malgré les circonstances. Mais Vitinha, il n'y a pas photo. Et après, pour le.
C'est clair.
Et c'est Daniel Riolo qui avait lancé ce débat-là, je crois, sur le meilleur espoir. Je trouve que ça, c'est une parodie, et je rejoins Daniel là-dessus.
Mettre Doué dans le même espoir.
Tu peux pas imaginer Neves, Zaïre Emery et Désiré Doué comme meilleur espoir de Ligue 1. C'est des gamins qui sont internationaux, qui sont champions d'Europe, qui ont déjà 3 ans de Ligue 1 dans les pattes. À un moment donné, il faut changer la formulation et arrêter de mettre une barrière d'âge de 23 ans. Ah. Mettez le meilleur rookie, c'est-à-dire le mec qui découvre la Ligue 1 et qui est performant.
Première saison ou deux saisons maximum.
Zaïre Emery, Désiré Doué, Joao Neves. Joao Neves, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain au monde et mes meilleurs espoirs de Ligue 1. Arrêtons les conneries, Pierrot.
Mais il deviendra grand et peut-être même avoir une grande carrière.
Oui, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Parce que meilleur jeune, ça veut dire que c'est un mec qui fait une belle saison, qui
est en devenir.
Ces trois-là, c'est déjà des grands joueurs en Europe.
Marion Bartoli.
Non, mais complètement d'accord avec Steve. Pour moi, effectivement, Vitinha va remporter ce trophée. Il le mérite largement. Il a été absolument monstrueux. Ça n'a rien à dire. Et c'est vrai qu'Ousmane, alors on a en tête là le match contre le Bayern avec le match retour où il marque, mais il prend aussi un caviar de Kvara. Sur la saison complète, je pense que Vitinha est quand même au-dessus de lui. Et même, je prends en compte les performances de Ligue des Champions, mais totalement sur le nombre de matchs, sur le volume de matchs, sur le volume de jeu. Après, on a vu quand même sur les saisons précédentes et sur les remises de trophées qu'il y avait des entraîneurs en dehors d'entraîneurs du PSG qui a été capable de remporter le trophée. Je pense il y a 2 ans à Eric Roy de Brest d'ailleurs qui a été le meilleur entraîneur de Ligue 1. Je pense à Franck Hez également quand il était à Lens il y a 3 ans. On sait que sur le poste de gardien aussi il y a débat, mais c'est vrai que sur le meilleur joueur, je vois pas pourquoi les joueurs du PSG seraient pénalisés. Et par contre effectivement sur le plus jeune espoir, ça n'a plus aucun
sens. Il traîne dans la caravane de la Ligue du PSG.
Il devrait faire vraiment le joueur qui a sa première année, première saison en Ligue 1, qui est capable de le plus performer, le rookie, oui, totalement, parce que là ça n'a plus aucun sens sur les
Sur les coachs, Pierrot, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on pense Pierre Sage qui a eu peu de moyens et dauphin du PSG.
C'est là où il y a un vrai débat.
Il a beaucoup de moyens, mais faire jouer une équipe où il y a beaucoup de grands joueurs, c'est aussi une qualité d'entraîneur.
Alors là, il y a un vrai débat puisque Luis Enrique, évidemment, a à sa disposition une équipe qui a pas son pareil, hein, évidemment. Mais il est quand même extraordinaire. Il faut quand même reconnaître sa qualité dans la saison du Paris Saint-Germain. Donc je vous redonne les nommés. Il y a Luis Enrique pour le PSG, Pierre Sage pour Lens, Paulo Fonseca pour Lyon, Bruno Genesio pour Lille, et donc Pantaloni, c'est Lorient, Vincent. Lorient qui fait une belle saison, surtout c'est une équipe qui joue pas mal, Lorient, avec peu de moyens et des joueurs intéressants. Donc est-ce que Luis Enrique est dans la discussion ou est-ce qu'on l'écarte au vu des moyens, Vincent? C'est ça aussi la question.
Non,
mais non,
les gars, pas du tout au niveau des moyens. Ils font le même championnat. L'autre, c'est les champions de France chaque année. Ils font le même championnat. Moi, je m'en fous des moyens. Ils gèrent des mecs qui a réussi à mettre dehors des mecs comme Messi, comme Mbappé, tout ça. Ça, c'est pas de la gestion. C'est pas, lui, les a mis les ronflons sur l'établi. Il a dit, hop, cela, il dégage. Parce que moi, j'ai fait un groupe, il a réussi. Et donc, maintenant, on dit, ouais, mais il a un peu de moyens. On va pas le mettre parce que tu comprends, c'est le meilleur, c'est le meilleur de tous. Et il y a pas photo. Donc, il y a pas photo. Pierre Sage, il est super, génial, bon entraîneur, mais il ne va pas inviter. Pas le Bristol, il ne reçoit pas le Bristol.
En 2013, ils avaient trouvé la solution. Mais il y avait, souvenez-vous, c'était le PSG d'Ancelotti qui avait bien marché. Et ils avaient partagé le titre avec Christophe Galtier qui avait fait une super saison avec la Saint-Etienne. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de Luis Enrique et Sage.
Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'à partager. Il n'y a pas de champion de France partagé. Ça, c'est des mecs qui n'ont pas les ronflons de mettre de choisir. Mais moi, je te le dis, il faut choisir, c'est Luis Enrique.
Luis Enrique.
Voilà, il n'y a pas de budget, de ci, de là. Voilà, il n'y a pas de raisonnement à faire. Oh, ils s'en foutent. Si le PSG, ils ont plus dosé, eh ben, tant mieux. Et puis les autres,
non,
ils ont
ce
puis c'est comme ça. Et puis, c'est la vie. Si ça, j'ai les champions de France. Parce qu'il peut l'être. Le PSG, on rappelle, dans les 15 ans qu'il y a eu des Qataris, il y a 3-4 fois, ils se sont fait croquer. Et bien là, cette année-là, et bien c'est l'entraîneur qui les croque, qui est champion de France, qui est en pole position et qui remporte le meilleur le truc.
Comme Gassier.
C'est Luis Enrique. Et bien comme Gassier. Là, c'est Luis Enrique. Point. Voilà.
Marion. Mais ce qu'il faut reconnaître à Luis Enrique, c'est que la saison d'après où il faut confirmer le statut, quand tu es tenant du titre, c'est encore quasiment plus dur même, j'ai envie de te dire. Et là, ce qu'il a été capable de prouver, surtout sur le début de saison où c'était quand même un petit peu poussif, la manière dont à partir de février, il a été capable de remobiliser son équipe et d'arriver, alors sauf le titre sur la Coupe de France, mais sinon d'être à nouveau en finale des champions et de remporter la Ligue 1, c'est monstrueux dans la gestion de l'effectif, c'est monstrueux dans la gestion des blessures, c'est monstrueux dans la capacité à garder son équipe sur le pont, à les garder tous motivés, à les garder engagés. Enfin, je veux dire, c'est un réel travail de manager, c'est un réel travail d'entraîneur. Ça, il faut le souligner.
Et puis Marion, pour compléter ce que tu dis, Luis Enrique, c'est un job différent en fait d'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est bien sûr l'aspect tactique, mais il y a l'aspect managérial, ce qui se passe dans les vestiaires, la gestion des égos, et surtout Luis Enrique, il a fait briller des mecs. Warren Zaïre-Emery l'année dernière, qui avait un peu disparu de la circulation, aujourd'hui est peut-être l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Il le fait jouer arrière droit, c'est magnifique.
Il a changé de poste des joueurs.
La décision de sortir Lucas Chevalier et de mettre Safonov, qu'on a beaucoup, on a été très sceptique sur Safonov, et ben tu t'aperçois que finalement, pour le moment, c'est payant. Faire jouer des petits Mayulu, faire jouer Kanginli quand il rentre sur le terrain, mettre titulaire, être capable de modifier ses équipes et modifier ses schémas tactiques, ça aussi c'est une performance pour Luis Enrique. Donc moi je suis d'accord avec Vincent et Marion, non, mais c'est lui le meilleur coach de Ligue 1.
C'est
lui.
C'est comme dans l'aviation, il y en a un qui travaille à l'aéroclub de la
Montagne Bro.
Et les autres qui travaillent à Airbus.
Voilà, c'est ça. Ils ont liquidé beaucoup de joueurs importants de leur effectif. Ils sont repartis de pas grand chose.
Je suis d'accord avec toi. Mais le travail de Pierre Sage est
magnifique. Non, mais c'est une très belle performance de Pierre Sage. On va pas du tout dégrader.
Attends, loin de là. Fonseca, ce qui a fait Lyon.
C'est une belle médaille d'argent.
Même Bruno Genesio aussi. Mais c'est belle ce que fait l'entraîneur de Lyon.
C'est pas l'école des fans, là.
Tout le monde peut pas gagner, quoi. C'est ça.
Petit pantalon, c'est très bien ce qu'il fait.
On commence le kick.
Petit pantalon, c'est pas. Pas le Bristol, pas invité.
Et sans le crash du mois de février, est-ce que Mason Greenwood aurait été meilleur joueur de Ligue 1 si Marseille est encore dans la lutte à quelque chose là.
Et ça veut dire que quand les gens votaient, c'était 6e ou 7e.
Non, mais surtout, ce que nous dit tout le temps Eric Dimeco, c'est que.
Non, mais il est dans les tops.
Dans les grands matchs, il n'était pas là en fait.
Ouais.
Il a des super stats, mais dans les grands matchs, Vincent, il n'est pas décisif, Greenwood. Ça manque quand même.
Non, puis tu le vois, t'as pas envie. Tu le vois jouer, t'as pas un billet. Alors les mecs vont me dire, ouais, mais attention.
Sur l'implication.
Au chien intérieur. Alors attention, là. Si tu vois, mais papa, mais il a des cannes et tout. Tu sens qu'il est football. Ouais, mais personne ne. Tout le monde. Ils l'ont eu au rabais parce que personne ne. Parce que c'est un cancre. Et les cancres, on récompense pas les cancres, même s'ils ont un peu de talent. Mais son talent, il est où, là? T'as vu où ils sont, Marseille? Mais quand t'as un talent comme ça, tu portes ton équipe quand t'as un grand talent. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu portes ton équipe et t'es européen.
Jusqu'au bout.
À dégager voix 12. Mutez-moi tout
et
ça.
Esteban Le Paul, meilleur buteur de Ligue 1.
Pierrot, est-ce que. En plus, c'est vrai qu'il en a rien à cirer. L'année dernière, il n'est pas venu à la cérémonie.
Il n'aime pas ça.
Il a horreur des prix individuels. Mais toi, tu ne nous as pas donné ton avis, Pierrot.
Alors, je vais te dire, quand je regarde la liste de meilleurs joueurs de Ligue 1, j'ai du mal à trancher. Hein. Ah. Je vois pas.
Même Viti n'est pas là.
Alors, pour le coup, oui, par élimination, je donne à Vitinha. Exactement. Greenwood, Thauvin, non, c'est pas possible. Moi, pour moi, pas assez fort. Dembélé, c'est le meilleur joueur intrinsèquement, mais après, il a mis des buts extraordinaires aussi.
Oui.
Il a mis quand même un but contre Lille extraordinaire. Donc bon, je sais pas s'il le mérite pas, en fait.
Il aura peut-être le but de l'année, non?
J'espère pour lui, ça serait mérité.
Si c'est Dembélé, tu vas pas chialer, quand même.
J'ai pas chialé.
Non.
Benjamin, au 32-16, supporter de Lens.
Non, c'est pas Greenwood. Salut Benjamin.
Salut Benjamin.
C'est Greenwood, je quitte la phrase. Vas-y.
Alors Benjamin,
est-ce que les Parisiens peuvent avoir des récompenses individuelles après cette saison un peu curieuse?
Oui, parce que Luis Enrique, quand on se rappelle du début de saison, il y avait énormément de blessures, on ne savait pas comment vous allez gérer, la machine ne tournait pas comme il faut, il avait une pression pour la confirmation, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe, et pour l'instant, bon, en championnat, c'est pas fait, c'est presque fait, mais c'est pas fait, en Coupe d'Europe, il est en finale, Attention, si on est en soi, c'est pas fini encore.
Ouais, il faudra gagner 4-0, quoi, ou 5-0. Hein.
On sait pas ce qui va se passer mercredi.
Il y a 15 buts d'écart. Ça veut dire que le.
Si on gagne mercredi, puis contre Paris FC, on sait pas ce qui peut arriver.
Ah ouais, d'accord.
On y croit. Allez, on y croit.
Vas-y, réveille-toi.
Louis Enrique, il mérite d'être. Qui se fout de ma gueule, j'entends derrière.
C'est moi,
Mario. Mario Rissifon,
c'est moi.
J'avais dit, moi, arrête de mettre dans la sauce.
Non, c'est pas Marion. Mais c'est pas grave.
Il a dit, mais qui c'est ce pipe? Il a dit, oh là, il est gonflé quand même.
Et Vincent, tu sais qu'on va se voir vendredi prochain.
Ah, c'est vrai?
Comment ça?
Elle est excitée, Vincent.
Je vais venir sur le plateau pour la finale.
Ah, c'est toi! Alors, parce qu'on avait fait un pari à l'antenne.
Ah, bravo! Oui.
Disant que c'était quoi exactement? Je me souviens.
Contre Toulouse. Et j'avais donné toutes les infos. Voilà. J'avais dit, que j'allais gagner, Et ils ont gagné malgré qu'ils perdaient 3-0.
Donc tu vas venir assister à l'émission vendredi.
Bravo.
Voilà, j'arrive vendredi et voilà. Et je vais venir avec vous pour la finale. Pour mes 40 ans.
Vendredi là, Vincent sera très content de te recevoir.
Et dis-moi, vous allez gagner contre Nice quand même?
J'espère. Après, Nice, en fonction de comment ils vont se sentir en championnat, est-ce qu'ils vont pas tout donner pour la coupe ou est-ce qu'ils vont privilégier le championnat?
Comment ils vont être? 40 ans, vendredi?
J'ai eu il y a 15 jours, 40 ans.
Putain, t'as le moins
de 65 ans. Mais Benjamin, tu viens, Vincent t'invite à manger le midi, et si jamais tu sais pas où dormir...
Écoute-moi, tu sais quoi, vendredi. Vendredi.
Par contre, attends, Benjamin,
à quelle heure t'arrives, vendredi?
J'arrive à 9h. On mange ensemble à midi.
Il y a un truc qui m'inquiète, Benjamin. C'est que si tu viens...
Ça m'inquiète aussi.
Si tu viens vendredi, la finale, tu la verras pas. C'est la semaine suivante.
Non, j'étais libre ce vendredi, mais là le prochain.
Tant pis, on annule tout du coup.
Pour en venir à Paris, oui, Luis Enrique il mérite parce que toute la pression qu'il avait, il mérite. Après, moi je pense que Pierre Sage, c'est comme la révélation, la confirmation de son talent parce que à Lens il n'y avait pas de budget, on n'attendait pas Lens, il a fait. Bah comme il a fait une lance, avec pas grand chose, il a fait une énorme saison, soit en championnat ou en coupe. Donc au final, Luis Enrique c'est la confirmation. Et Pierre Sage, c'est la révélation, confirmation.
C'est l'école des phrases.
Avec les mecs comme Pierre Sage et tout ça, on n'est pas sûr du talent qu'ils ont. Avec Enrique, on sait le talent. Autres se disent, c'est un coup de bol, c'est un coup de chasse ou un truc comme ça.
Non,
Pierre Sage, ça commence à être sérieux.
Le budget de Luis Enrique et puis le budget de Sage, Sage, il fait avec des jeunes du centre de formation. Luis Enrique, il a des joueurs à plus savoir quoi en faire. Faut pas déconner non plus.
Ça n'a rien à voir. Comment faut les gérer les oiseaux là, je vais te dire.
Ben, certains se sont plantés d'ailleurs.
Parce que souvent ils ont mis 15 ans à se planter. Je vais te dire que là il a mis un coup de tournevis. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Il apprécie de ses joueurs. C'est un mage. Hein. On se rend pas compte, mais lui quand il va partir le vide sidéral.
Le PSG,
il peut te partir qui tu veux comme joueur. Lui quand il va partir ça va être un vide sidéral.
Le PSG est champion pour la 5e fois consécutive. C'est jamais arrivé sur l'ère qatari. Petite question, Kikadi, quels sont les deux coachs les plus titrés au trophée UNFP?
Giroud
de l'histoire? Non, pas du tout.
Emery,
deux Français.
Laurent Blanc
et Christophe Galtier, trois fois chacun. Deux entraîneurs français. Ouais, trois fois le lot. Une fois avec Bordeaux et deux fois avec le PSG.
Laurent Blanc aussi?
Ouais, trois fois. Une fois avec les Girondins et deux fois avec Paris.
Galtier avec Saint-Etienne, tu m'as dit.
Et Galtier, Saint-Etienne, Lille et Paris.
Bravo
les gars. Christophe et Laurent.
Est-ce qu'on n'a pas été trop dur à Christophe Galtier?
C'est pas pour me moquer, mais je trouve ça curieux qu'il ait été meilleur entraîneur avec Paris. Parce qu'avec Paris, il a vraiment pas cassé la baraque. Hein.
Ah, ils sont champions.
Question, c'est saison abominable.
Il a pété avec Paris. Deux fois avec Delos, une fois avec Saint-Etienne. Et il a mon Pierrot.
Non, parce que Pierrot, il avait dans le collimateur.
Allez, dans un instant, les infos, toutes les infos sur la blessure d'Arthur Fils. À tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h29, on y revient au massif dans le Super Moscato Show. Marion Bartoli est avec nous, Steve Foulébray, Adrien Gouet. Pierrot, dans demi-heure, claque-casse.
Alors, Habib Bey est-il, oui ou non, victime d'acharnement? C'est ce qu'il ressent, lui, en tout cas, à son poste d'entraîneur de l'OM. Il estime que c'est plus contre le jeu de l'équipe, mais que c'est individualisé, on va dire. Alors, tout de suite, attention, il y a une info qui nous fait frémir, c'est la blessure d'Arthur Fils.
RMC, le Mosca
Zap. Donc le Français qui était en pleine forme a dû déclarer forfait à Rome. Nous accueillons Eric Salio qui a enquêté aujourd'hui. Nous avions deux enquêtes parallèles, celle de Marion Bartoli et celle d'Eric Salio. On va voir si les conclusions convergent.
Je crois qu'il n'y a pas photo.
Marion, c'est Aqua Babe et Eric Salio, c'est Média Partout.
J'ai eu un échange très sympathique avec Philippe Weiss, qui est l'agent d'Arthur Fils. Très, très sympathique, mais absolument pas instructif.
Alors, bon.
J'ai pas d'infos.
Alors, on est inquiet, pourquoi? Parce qu'on se souvient que l'an dernier, eh bien, ses douleurs au dos lui ont fait manquer plusieurs mois de compétition quand même. Hein.
Oui. Alors, officiellement, il a souffert samedi soir d'une douleur à la hanche. C'est ce qu'il a déclaré à quelqu'un de l'ATP. Ensuite, ça a été transféré aux journalistes sur place. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand le kiné est venu à 3-0, il a parlé avec Arthur Fils et on n'a pas entendu ce qu'il lui a dit, mais le kiné a montré ses propres lombaires. Donc moi, j'en déduis qu'il avait mal dans le bas du dos. Et ensuite, ils ont quitté le cours pour un protocole médical. Et quand il est revenu, bon, il a tenu 5 minutes et puis il a jeté l'éponge. Donc on n'en sait pas plus, mais j'attends les informations exclusives de Marion Bartoli.
Marion Bartoli, inside. Juste avant de donner la parole à Marion, tu as échangé quand même avec son agent, oui, qui avait l'air rassurant, même s'il ne t'a pas donné la moindre info.
Sûr,
il a l'air content de...
Je sais pas sûr, je sais pas quoi déduire de nos échanges sur WhatsApp avec des émoticônes, donc je préfère pas.
Après, me l'émoticône aubergine, ouais, ça veut pas dire que Arthur est en grande forme.
Alors Marion, est-ce que tu as des suppléments d'informations?
Oui, alors tout va très bien. Effectivement, il est arrivé sur ce tour un petit peu fatigué. Il y a eu une petite alerte pendant le match et son
équipe
lui a dit de pas prendre de risque. Non, au niveau de la hanche bas du dos. Son équipe lui a dit de pas prendre de risque, donc lui ont demandé d'arrêter. Ils ont fait entre-temps tous les contrôles médicaux nécessaires, tout est absolument...
Il y a un problème avec ton micro, Marion, je pense qu'il faut que tu le remettes bien devant la bouche, là.
Tu m'entends?
Voilà, super.
Ils ont fait entre-temps tous les contrôles médicaux, tout est OK, il n'y a aucune blessure, tout est au vert, il a simplement besoin de repos et ensuite il va terminer sa préparation pour la dernière ligne droite avant Roland-Garros. Donc tout est OK, les amis, il n'y a aucun problème.
Allez, let's go to semi-final.
Simplement, si tout est OK, on devra avoir une communication rapide quand même. Il n'y a pas de raison de faire des mystères si tout va bien, non, Eric?
Après cette intervention dans le Moscato Show, je pense que Philippe Weiss va faire un communiqué dans la
minute. Soyons sérieux. Je veux dire, le garçon est quand même sujet,
bien sûr,
à des problèmes de dos, et ce qui peut être hyper handicapant pour sa carrière, on ne sait pas. Hein. Joe Wilfried, son gars, en a souffert. Vu ce qu'il vient de traverser et le niveau où il est lorsque tout va bien, c'est quand même une vraie préoccupation.
Mais c'est pour ça que là, il y a eu un besoin à mon avis, ils ont pris vraiment le principe de précaution. Il y avait une fatigue. Cette fatigue-là sur la terre battue, en plus le joueur contre qui il a joué, vient de gagner contre Tiafoe aujourd'hui, donc c'est loin d'être un peintre. Voilà, il était fatigué, il avait certainement une gêne musculaire. Alors musculaire, effectivement, est-ce que c'est lombaire, est-ce que c'est la hanche? C'est toujours pas facile de juger, surtout lorsque c'est sur le terrain, dans l'action pour le kiné de l'ATP. Mais là, tous les examens ont été faits, il n'y a absolument aucune blessure. Il fallait qu'Arthur se repose. Il a énormément enchaîné entre Barcelone et Madrid. Le match contre Sinner, en particulier le deuxième set, a été d'une intensité énorme à Madrid. Qu'il arrive avec la fatigue à Rome, ça me paraissait même assez logique. Tant qu'il arrive à se repréparer et qu'il ne soit pas gênant sa préparation parce qu'il n'y a pas de blessure, c'était ça l'essentiel. Parce que s'il y avait une blessure, il aurait été gênant sa préparation avant Roland-Garros. Là, il n'y a pas de blessure, il y a simplement la fatigue à gérer. Ils vont parfaitement le gérer en 15 jours avant que Roland commence.
Je suis content d'entendre ça de la part de Marion, parce qu'on était tous inquiets et on se revoyait déjà l'année dernière avec le problème au dos et un tournoi qui l'a obligé d'arrêter. Parce qu'en bonne santé, il regarde tout le monde les yeux dans les yeux, tous les joueurs du top 10, mis à part Yannick Sinner. Après, la fatigue, ok, ça je l'entends, il a beaucoup joué après une grande période d'inactivité. Il a quand même eu une semaine de repos après avoir joué Sinner en demi et démarré le tournoi de Rome. Déjà, tu t'aperçois que un garçon comme Yannick Sinner qui est hors norme, ce mec-là est capable d'enchaîner tous les Masters 1000 sans le moindre pépin. Et Arthur, lui, de temps en temps, il a beaucoup joué. Donc, écoute, moi, j'espère que c'est rien, que tout va bien.
T'as l'air un peu plus inquiet.
En fait, ça m'énerve.
Pas le même type de jeu non plus.
Oui, je suis d'accord. Mais ce qui m'inquiète, si on peut être inquiet, c'est qu'en fait, ça perturbe peut-être la préparation qui était censée être jouée, gagner quelques matchs à Rome et ensuite jouer au tennis à Roland et te mettre directement dans ta quinzaine. Là, ça peut-être un peu le perturber sur des protocoles de soins. Il va peut-être pas toucher la raquette. Écoute, moi, je fais confiance 100%.
Mais tu sais, Sider a pas touché la raquette pendant 3 jours entre sa finale de Madrid et Rome. Oui. Non, franchement, pour moi, en fait, au départ, et on avait eu ce questionnement d'ailleurs avec Eric sur l'impasse de Monte-Carlo ou pas. Et rappelle-toi, Eric, je t'avais dit, pour moi, il fait bien de pas jouer Monte-Carlo parce qu'il est vidé après Miami. S'il enchaîne sur Monte-Carlo avec seulement 4-5 jours, c'est là où à la limite, tu vois, tu passes sur terre, tu changes de surface, tu peux t'attraper une blessure. Bah, regarde Alcaraz, il s'est blessé au poignet à Barcelone et personne n'est à l'abri de ce genre de choses quand t'arrives sur trop de fatigue.
Mais les reins, c'est différent.
Là, pour moi, l'enchaînement, gagner Barcelone, où ça a été dur, il a eu match dur, il a battu des très bons joueurs. Il bat tous les joueurs qu'il doit battre à Madrid et il perd que sur Yannick Sinner qui marche sur l'eau actuellement. Et franchement, arriver mieux préparé que ça à Roland, c'est quand même difficile. Il est tête de série, il va avoir des premiers tours tranquilles, il va se mettre dans son tournoi, ça va être parfait.
Il a 22 ans, Marion. Moi, je veux bien, tout le monde se dit, il a 22 ans, il a un talent fou. Physiquement, c'est un sucre d'orge. Il a mal au dos tout le temps.
Mais non.
C'est vraiment. Il marche comme un Petrucciani, quoi. Il est là, il est un peu voûté.
Qu'est-ce que tu racontes?
Tu peux pas avoir un physique comme ça. Je suis inquiet pour lui. Parce qu'il a un talent fou et qu'à son âge, il a besoin de se reposer parce qu'il a mal au rein. Il a peut-être un truc aux vertèbres, il a peut-être quelque chose. Je sais pas, mais c'est pas normal. À 22, 23 ans, quand t'as 30 ans.
C'est peut-être un principe de précaution sur la
blessure. Il n'y a pas à avoir de principe de précaution. C'est une douleur lancinante. Il s'est pas fait. Alcaraz, boum, il se fait mal à la main. Bon, bam, tendinite,
ouais. Mais il n'a pas eu que ça, Alcaraz.
Bon, voilà. Mais là, c'est lancinant. Ça revient tout le temps. Moi, je suis plutôt inquiet. Et crois-moi, je te dis pas ça comme ça parce que c'est douleur au dos comme ça. Je te le dis. Faut pas qu'il finisse. Et il va arriver voûté sur le cours.
On est d'accord, il jouait top 4 mondial, là, Marion.
Mais il est quatrième à l'arrêt, de toute façon, Eric, bien sûr. Bien sûr qu'il joue top 4 mondial, mais encore une fois, il a un tennis qui est extrêmement explosif. C'est pas du tout le même tennis que Sinner, qui est un tennis beaucoup plus en fluidité, en relâchement, en traversée de balle. Arthur, il fait il a un besoin de beaucoup d'explosivité, beaucoup d'énergie quand il est sur court. Donc, effectivement, il soit un peu plus sujet aux blessures. Oui, ok, mais Alcaraz, si tu prends, là, il y a sa blessure au poignet, mais il a été blessé plein de fois sur le plan musculaire. Il a fait des crampes sur Zverev en 2000 Open d'Australie.
Ouais, il a
gagné le tournoi. Il a fait des crampes généralisées quasiment contre Djokovic. On s'est tous dit, oh là là, mais regarde, mais il a trop de masse musculaire. Oh là là, mais il fait des crampes généralisées sur Djokovic. Il va jamais y arriver. D'ailleurs, étant qu'il est grand chelem comme des perles. Franchement, pour nous, d'avoir un Français qui soit capable évolue à ce niveau-là, d'aller challenger les meilleurs, d'être top 5 dans la race, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Donc il faut vraiment aller positif.
Je voudrais ton avis, Djoko, oui. ça gagne pas deux matchs à Roland là.
Aujourd'hui.
Ah non, ça gagnera plus que deux matchs.
Voilà, là, Marion, on a failli se faire piéger.
T'as aucun souci pour ça.
On reviendra au tennis, évidemment, plus on se rapprochera de Roland Garros. Mais d'abord, on va changer de sport. On part sur le Giro. Le Giro qui met en scène l'autre pépite du cyclisme français. Il s'agit de Paul Magnier, qu'on a reçu récemment, Vincent. Le sprinter qui nous avait fait une très bonne impression d'ailleurs. Très sympathique, très rigolo. Et qui est en pleine forme, puisqu'après trois étapes, il en a remporté deux, les deux au sprint. Léna Marjac, bonjour.
Salut tout le monde.
Il est vrai que Paul Sexas prend toute la lumière, mais le palmarès de Paul Magnier est déjà très impressionnant à son âge. Hein.
Oui, parce que 22 ans seulement, CV bien garni effectivement. Saison dernière, en 2025, donc Paul Magnier, c'est 19 victoires. À titre de comparaison, seulement Tadej Pogacar a fait mieux avec 20 succès. Mais ce qu'il manquait encore à ce grand brin d'1m87, c'est une victoire sur un grand tour et donc c'est chose faite. Vendredi dernier, le coureur de la Soudal Quick-Step a levé les bras à l'arrivée de la première étape du Giro. En prime, le mythique maillot rose sur les épaules le temps d'une journée. Et Paul Magnier d'ailleurs devient le deuxième Français seulement au 21e siècle à le faire après Bruno Armirail. C'était en 2023. Et puis hier, deuxième sprint, deuxième succès du Français. Cette fois, la photo finish devant le puissant Italien Jonathan Milan. Écoutez Paul Magnier au micro d'Eurosport.
J'ai rêvé de ces victoires et le plan était de tenter d'encore aller jouer la gagne. Je me sens super bien. Je peux être avec les meilleurs sprinteurs du monde. Je profite du moment et on va essayer de continuer comme ça.
Donc à 22 ans, il fait déjà partie du gratin mondial des sprinteurs. Il bat aussi des records de précocité. Et sur ce Tour d'Italie, d'ici la fin, Paul Magny aura d'autres occasions, évidemment, de briller et surtout de défendre son maillot cyclamen de meilleur sprinteur.
Et ce qui est sympa, Vincent, c'est qu'un peu comme Paul Sexas, par rapport à l'année dernière qui était très encourageante, il a monté d'un cran. C'est-à-dire que l'an dernier, il a gagné beaucoup de courses. De deuxième niveau,
ça les motive.
Et là, il gagne sur des courses de niveau World Tour avec le Giro. Hein.
Je pense que
c'est une génération. Surtout, il termine au sprint avec deux spécialistes de du sprint. Pardon, excuse-moi.
Vincent.
Non, Mario. Non, mais il y a une émulation automatiquement. Il se tire la bourre. Il y en a que pour Sexas. Les mecs, même bon, il faut avoir du talent. Je pense que lui, il y en a beaucoup. Mais en plus, ça le booste, quoi. Ça le booste de vouloir gagner des trucs et tout. C'est souvent comme ça. Les générations, t'as des générations, t'as que dalle. Et puis une fois, et après, on se dit bam. Et puis après, t'as deux trois coureurs qui sont très très bons parce qu'ils sont justement deux ou trois et qu'ils se tirent la bourre et que Sexas, c'est inaccessible pour eux. Donc ils se filent dans sa roue. Ils veulent essayer de gagner des trucs aussi, tu vois.
C'est qui le plus grand sprinter du cyclisme français de l'histoire
Nasserboigny.
Ouais. Ardo Demar.
Il y
a match ou pas?
C'est arrêté depuis.
Bah ouais.
Demar.
Non mais il a un créneau à prendre là. C'est pour ça que je veux dire. On n'a pas eu de très 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 grands sprinteurs.
Pas réagir.
Non,
de mec capable de gagner 5 étapes sur le tour.
Ouais, 5 ou 6 étapes sur le tour. Je pensais que vous saviez, moi, désolé.
Non, mais tu poses des questions.
C'est qui? Mario Cipollini?
Cipollini, non, quand même. Cavendish, Marc Cavendish. Ah, il y a Eric Dimeco qui vient d'arriver, qui veut donner son avis. Vas-y, Eric, allume ton micro. Bonjour.
Merci, Eric.
Bonjour.
Abdou Japarov,
c'est pas l'eau claire, je crois. Hein.
Ouais.
C'est
je crois que c'était sprint et pipi.
Ah, c'est surpris de l'eau claire.
Alors, comment on fait?
Je crois que c'était pipi, Schtroumpf.
Non, Marc Cavendish, exceptionnel, quoi.
Oui, Cavendish. Merci Léna, on zappe le vélo. Un mot de l'OM, même si on redébattra tout à l'heure d'Habib Bey. L'info importante quand même, c'est que l'OM avance sur le recrutement du directeur sportif qui va prendre la suite de Mehdi Benatia. Cible prioritaire, Grégory Lorenzi. Est-ce que ce nom te dit quelque chose, Vincent? On l'a déjà évoqué, non. Mais on n'a pas vraiment parlé de lui ni débattu dans le Moscato Show. Il est actuellement à Brest et sa réputation est grandissante. C'est un ancien joueur de Brest qui a été reconverti directeur sportif à l'issue de sa carrière il y a déjà 10 ans. C'est vrai qu'il est tout neuf, mais ça fait déjà 10 ans. Et avec pas mal de réussite, puisque à son palmarès, il y a la montée en Ligue 1, puis la qualif en Ligue des Champions, puis la campagne de Ligue des Champions. Dernier coup réussi. C'est le recrutement d'Éric Roy, par exemple. C'est lui qui est allé chercher Éric Roy, qui était en semi-retraite, mais qui n'avait pas entraîné depuis très longtemps un club de Ligue 1 et qui l'a recruté avec réussite, hein, puisque Éric Roy, quand même, donne satisfaction.
C'est pas... Tu vois, à Marseille, c'est pas le talent des mecs, c'est de pouvoir s'exprimer, pouvoir bosser,
après, s'adapter,
t'as plein, ouais. d'interférences qui te sabotent
c'est
le boulot, quoi, tu vois.
C'est ça.
T'as une pression qui est terrible, après, être manager à Brest, et l'être à Marseille, c'est pas du tout le même métier, quoi. Je veux dire, c'est pas le même sport, hein. Donc, on peut pas commenter, on lui souhaite surtout bon courage, papa. Bon courage.
Marion, ça t'inspire quoi?
Non, mais je suis complètement d'accord avec Vincent. Il faut arriver à trouver quelqu'un qui arrive à soutenir la pression et qui arrive à tenir un vestiaire. C'est ça le problème. Alors après, avec Mehdi Benatia, on a vu les sorties qu'il avait faites. On s'est dit, est-ce que c'est bon pour le vestiaire, que c'est pas bon pour le vestiaire? Est-ce que finalement, comment vont le prendre les joueurs? Bon, on l'a vu comment on l'a pris les joueurs. Donc, qu'est-ce que je te dis? Il faut arriver à trouver quelqu'un qui a vraiment de la poigne, quoi, qui arrive à tenir tout le monde, à tenir le président, à tenir les joueurs, à tenir l'environnement,
C'est un joli défi quand même pour Greg Lorenzi, parce qu'il va passer, Vincent l'a dit, c'est deux salles, deux ambiances.
C'est pas la même entre Brest et l'OM.
C'est motivant parce que t'as envie de te dire, l'OM, j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de réussir. Voilà, il a jamais fait un transfert à plus de 5 millions à Brest. Déjà, il va arriver à Marseille, il va voir la masse arrière, il va dire, oh là,
peut-être qu'il va faire venir Brendan Chardonnay à l'OM.
Peut-être.
Je sais pas.
Non, mais tu sais, il y a même différence entre la température de l'eau à Marseille et celle de Brest. Tu vois, c'est à peu près la même chose au football. Après, quand même, lui, au moins, il a fait un parcours en Ligue des Champions.
C'est vrai.
Mais moi si tu veux t'assurer, le mec qui serait compétent dans ce genre de truc, c'est si tu débauchais un mec à Naples. Ou des trucs comme ça.
Un mec habitué à un environnement agité.
Un mec qui contrôle des mecs qui sont des vrais vilains, quoi. Tu vois,
l'OM
autour de lui.
À 17h. Voilà. Habib Bey est-il victime d'acharnement? D'abord, journal moyen, deuxième édition.
La deuxième édition, comme chaque sortie de week-end, tous les lundis, des petites mâchoires paralysées, des saucisses, des moscards. J'ai un léger Christophe Cessieux. J'ai une histoire de cochon. Et j'ai Wembanyama qui nous parle de football, Vincent. C'est tout de suite.
Allez, les 16h44, le super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
16h47 dans le super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouet. Deuxième édition.
Deuxième édition du journal moyen, des saucisses, un petit peu de mâchoire paralysée, des moscards. Wembanyama nous parle de foot. Il a toutes les qualités, Stephen, ce Wemby.
Exceptionnel.
Et puis, coup de coude. 16h55, première question du Kikadi du jour. Marion, tu représenteras Eric Dimeco, sauf si Eric Dimeco, qui est arrivé au studio à l'avance.
Je ne veux pas jouer à votre
jouer.
Je fais forfait, Eric. Tu joues.
Allez, ça va.
Il est en avance, Eric. Il est parisien aujourd'hui, Eric Dimeco. Et oui, il adore Paris. Prépare la finale. Vous écoutez RMC, c'est le 2653e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
Ce week-end, j'écoute l'intégral sport. Christophe Cessieux à la présentation. C'est la voix du cyclisme, hein, Christophe, sur RMC. Il a bien préparé son Giro, son Tour d'Italie. Parce que la particularité cette année, c'est que les premières étapes, notamment ce week-end, se déroulaient en Bulgarie. Voilà, c'est une attraction, c'est pas commun. L'étape samedi, c'était Burgas, Valico, Tarvono. Tout est clair pour toi, Christophe? T'as bien préparé?
La bataille face à l'Angleterre dimanche prochain à 17h45. Merci Pierre, bon match, à tout à l'heure. 15h34, qui a un petit détour par l'Italie, fait un temps magnifique en Italie. Ah,
Kevin, en Bulgarie, tu veux dire?
En Bulgarie, vraiment, j'oublie qu'on est en Bulgarie.
Voilà. Et tu sais qu'on sera en Espagne au mois de juillet. Hein. Il y avait une chance sur deux, c'est tombé sur le mauvais côté, Vincent.
Oui, c'est vrai qu'on part de Barcelone.
Hein. Et oui, il y a une chute sur le Tour d'Italie. Kevin Morand est au commentaire avec un, je crois, un mot nouveau, Kevin.
Pour les coéquipiers de Adam Yates qui est bien reparti, lui, 10 km de l'arrivée donc, et Jonas Vingegaard qui est à l'avant pour l'instant, c'est égrapillé derrière, pour les coureurs, les concurrents, mais donc le Danois qui a pris les choses en main dans cette deuxième
étape. Mais si c'est ça,
ils sont pas, On a des spécialistes autour de la table. Toujours l'intégral sport avec le rugby, Johan Bredov, le top 14. Montauban descend en Pro D2. Attention à la mâchoire, toi aussi, Johan.
Attends, faut préparer évidemment cette descente. Ça passe par là, par faire jouer des jeunes joueurs, mais c'est ce qui leur reste en fait au Montalbanais.
Exactement.
Elle est belle celle-là aussi, dis donc.
Elle est pas mal.
Montalbanais. Mâchoire.
Ça fait rire Marion en tout cas.
Marion rigole.
Ah. Oui, toujours. Moi, je suis bon public.
J'ai écouté les grandes gueules auxquelles effectivement participe Christophe Cessieux. Donc, je vous propose un jingle grande gueule du sport, Christophe Cessieux. Il est très rapide, soyez attentifs. Jingle grande gueule du sport, Christophe Cessieux. Bonjour Christophe. Il va me crever un jour. Christophe Cessieux, léger. Hein. On parle des critiques à l'encontre d'Antoine Dupont dans les grandes gueules du sport. Peut-on critiquer Dieu? Christophe ne chute pas sur cette action. Il ne chute pas, mais il est sur un fil. Et c'est très fin. Mais je pense qu'il retombe quand même du bon côté. Vous allez juger, mais on connaît notre Christophe. On est à la limite, c'est parti.
Effectivement, Dupont. Ben après, c'est un garçon qui a une image assez que personne évidemment n'a envie de flétrir.
Oui, bah oui.
Ça va.
Mais tu sais que quand il fait son petit mounou, il pense à nous, il pense au journal moyen. Ça serait cool. Ça vaudrait bien le mignon. Écoutez le mignon.
Effectivement, Dupont. Ben après, c'est un garçon qui a une image assez que personne évidemment n'a envie de flétrir.
Il est sur un fil.
Une analyse précise.
Une image qui personne veut flétrir.
Je trouve qu'il y a une vraie signature par rapport à son grand classique, là, le chrono qui avance à Paris. Je trouve qu'il y a une similitude que peut-être Suzanne peut étudier dans le détail pour demain. Je sais pas.
Oui, Suzanne. C'est Suzanne qui décidera, notre réalisatrice. C'est une folie. Des nouvelles de nos amis de France Télévisions, c'est important. Une course cycliste, magnifique course cycliste hier sur France 3. Le Trobro Léon dans le Finistère Nord, c'est le tour du pays de Léon. C'est le Paris-Roubaix de la Bretagne, Vincent. Des conditions dantesques, il pleuvait, un peu de vent, etc. Et dès la prise d'antenne sur France 3, Alexandre Pasteur lance Thomas Vauclair sur la moto. Je crois qu'on est sur un joli moscard de Thomas Vauclair sur la moto. Il pleut, il y a du vent.
Ça secoue, sur ces Ribignoux, en pluriel on dit Ribignoux, Ribine au singulier. Bref, au-delà de la grammaire, de la conjugaison, tout ce que vous voulez, il y a du sport hein, depuis le début. Oh là là là, une course avec un vent décorné un cochon.
Ça marche pas.
C'est quoi l'expression?
Décorné.
Alors, oui, cochon, il n'y a pas de.
Mais au début, j'ai reçu 10 messages d'auditeurs.
Le cochon, il n'a pas de. Non.
C'est peut-être volontaire. Je vous explique. J'ai reçu des dizaines de messages de gens bien intentionnés qui m'ont dénoncé Thomas Vauclair. Mais j'ai aussi reçu des messages. C'est le pays du cochon. Et sur cette course, le premier coureur breton de la course, le premier breton.
Gagne un cochon.
Il gagne un cochon, un petit porcelet.
Je pense qu'il a fait exprès, Thomas Vauclair, non? Il a peut-être fait exprès, non?
Je pense qu'il a fait. Après, Thomas, il est capable de faire des moscars aussi. C'est ça le problème.
Il n'est pas corné, le cochon.
Pas non plus croire qu'il pense à tous les mecs avec.
Ouais, en Bretagne,
pays du cochon.
Attends, tu crois au
Moscar,
toi?
Non, bah oui, c'est quand même la théorie.
C'est un Moscar pro, ça n'a rien à voir.
C'est un Moscar. Voilà. Ok, Moscar, on prend les Moscars. Okay, moi, je prends, sans transition, les valeurs du rugby. Avec une petite mâchoire paralysée, nous sommes sur Toulon-Toulouse sur Canal Plus samedi après le match sur Canal. Romain Tamac vient de gagner avec le Stade Toulousain. Le parfait Romain, et là je suis déçu parce que petite mâchoire et en plus refus d'obstacle, Romain. Quand t'es gaillard comme ça, tu refuses pas à l'obstacle. C'est pas autorisé, on écoute.
On a fait les choses collectivement, ce qu'on a trop rarement fait cette année. Et même quand on se trompait collectivement, ben, ça nous a permis de rattraper du coup. Alors on a pris un contre en début de match, mais ça nous a pas désolidarisé. Voilà.
Oh.
Donc voilà. Non, mais c'est bien parce que quand on prend plus 10 à un moment donné.
C'est pas beau ça.
Malin parce que
il a arrêté.
Ça c'est la mort du journal moyen si les mecs s'arrêtent maintenant. Sûr. C'est pas possible. T'as pas le
naturellement, et naturellement, il me fait péter des abandonnés. Hein.
Oui.
Naturellement.
Abandonné.
Mais
Romain, il est né là-dedans.
Ah ben là, ouais.
Je pense que Emilien Tamac, son papa, dit à abandonné.
Ah lui, c'est pur triangle.
Comment tu le dis quand t'es en train de manquer de solidarité, Vincent, ce...
Non, pas du tout. Pas du tout, mais je vous signale que c'est
toi, la règle française. Comment tu le dirais, par
comment tu le dirais? Ils sont désos, non?
Désolidarisés.
Unis.
Pas mal. Non, ça passe.
Désolidarisés.
Si un peu vite, ça passe.
Non. Là, il y a eu camouflage.
Ah ben là, ça y est, ça, c'est fait, c'est fini. Là. Maintenant, vous me chauffez. Désolidarisé.
Voilà.
Ah merde, je le sens en plus. Ah, c'est terrible. Quoi. J'étais presque passé l'entrée. Il a fallu que de fissieux, Pierrot.
Allez, tu le dis une dernière fois et ça passe. Allez, on y va.
Allez, vas-y.
Désolidarisé.
Bravo. Excellent.
Merci Mario.
Progresse,
merci Mario.
C'est incroyable. On applaudit un mec qui arrive à dire un mot correctement.
C'est dingue. Mais nous, on croyait que c'était que dans le Moscato Show, mais j'ai l'impression que c'est général.
C'est général. Ouais.
C'est vrai.
C'est l'instant Wemby. C'est l'instant NBA. C'est parti, jingle.
What time is it, Pierre? Oh, it's game time, baby.
Victor
Wembanyama. Il a mis un coup de coude, mais il a aussi parlé sur Prime. C'était avant son coup de coude aux États-Unis sur la chaîne de télé. Il est en duplex. Il est interrogé par un consultant, une légende NBA, on peut le dire, Stephen.
Steve Nash.
Il est interrogé sur la finale de la Ligue des Champions PSG Arsenal. Et la question, c'est un malin, Steve Nash. Il est totalement dingue d'un Tottenham. C'est un supporter de Tottenham.
Son père est né dans la quartier de Tottenham.
Son père, il est là-bas, en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est sa culture, sa vie. Il adore le foot. Il adore Tottenham. Il faut préciser qu'en en Angleterre, Tottenham et Arsenal sont ennemis. Oui. Les deux clubs rivaux de Londres. Et la question est dirigée parce qu'il savait quelle était la réponse, forcément, avec Wembanyama.
One second, but I have to know, like about your taste. Who do you have?
Alors, PSG ou Arsenal, la finale?
PSG or Arsenal?
Oh, come on, PSG, of course.
But finally, it's gonna be fun.
Le PSG, bien sûr.
Quelqu'un de goût, il a dit.
At least PSG is gonna make it somewhat fun.
There you go, I love it.
Because I know Arsenal ain't.
This is true.
Le PSG, ça sera peut-être plus amusant parce que en général, Arsenal ne l'est pas. Et donc, très bonne réponse, Steve Nash dit une très bonne réponse. J'imagine qu'Eric a la même réponse que Wemby.
Bien sûr.
Eric dit non. Tu connais toi, Vincent, Steve Nash?
On le connaît tous, Nash, ici.
Oui, il est deux fois MVP. Quelle nationalité, Steve Nash?
Canadien.
Eh ben oui.
Canada.
Bravo,
et supporter de Tottenham.
C'est ce qu'on appelle Nash. Ben, c'est la bite.
Labitte.
Christian Labitte.
Pourquoi?
Bah, je savais pas.
Ça a toujours été son surnom.
Nash. Ah, Christian Labitte.
Pourquoi?
Des gaines de cowboy.
Quel rapport?
Ouais. Quel rapport? Quel
Nash, son surnom.
Nash, ok.
Comme si toi, t'avais besoin de faire des rapports. Je sais
pas, il peut y avoir des liens entre les surnoms.
Ils donnent un nom à un mec.
Non, mais c'est comme dans Rugby, ça arrive.
Ils ont un pote, il l'appelle Fœtus, par exemple.
Oui, peut-être qu'il
ressemble vraiment à un Fœtus. Il ressemble vraiment à un Fœtus.
Fabrice Andro, c'est Néné. Ça n'a rien à voir avec Fabrice et Niandro.
Peut-être qu'il est dans mon point. Je sais pas.
Qui c'est que Steve Nash adore jouer au tennis. Du coup, je l'avais rencontré au tennis.
Ouais.
Une info comme ça, je te glisse une info comme ça.
Encore un basketteur que t'as pas battu.
Par contre, il joue beaucoup mieux que toi au tennis. C'est certain.
La première citation du Kikadi, est-ce qu'Eric Dimeco veut se défendre sur le point?
Allez.
Donc Marion.
Vas-y, Eric. Non, moi, j'observe.
Tu juges, tu arbitres sur celle-là. Première citation du Kikadi du jour. Kikadi.
Je croyais voir tes grosses fesses, mais non.
Kikadi. Le Stade Rennais m'avait proposé de continuer.
Mandanda.
Je serai encore en activité. Steve Mandanda, dans son livre qui s'appelle Les jours d'après, il raconte son énorme galère actuelle. Il n'arrive pas à passer autre chose. Le foot, c'est sa vie. Donc il sort un bouquin pour en parler, Les jours d'après. Steve Mandanda, qui n'aurait pas arrêté si Rennes lui avait proposé un contrat.
Alors, un premier point pour Stephen Brun et un très beau cadeau inédit, un vidéoprojecteur Acer. Vous envoyez Kikadi par SMS au 7-32-16 dans un instant. Est-ce que vous pensez qu'Abib Bey est victime d'un acharnement contre lui? On en parle tout de suite au 32-16 sur RMC.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.